Stanislas Veillet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Biofitis. On va faire le point avec vous sur vos dernières actualités et puis sur les perspectives. Pour commencer, un mot de l'année 2020 qui a été particulière pour forcément toutes les entreprises, pour les biotech en particulier aussi, bien sûr. Qu'est-ce que vous retenez-vous de cette année, de ces derniers mois pour Biofitis?
Je pense que ça a été notre mobilisation pour essayer de trouver une solution de traitement dans le Covid, en utilisant le savoir-faire de la société, ses produits, et ça a conduit à une mobilisation de la société, de ses partenaires, de cliniciens, de chercheurs, pour proposer le développement de Sarconeose BIO-101 dans l'insuffisance respiratoire associée au Covid-19, qui a été fait en un temps record. On a donc pu ainsi lancer cette étude en France, en Belgique, aux États-Unis, au Brésil. Donc c'est vraiment une étude internationale pour démontrer le potentiel thérapeutique de sarcoïnose chez des patients hospitalisés qui souffrent d'insuffisance respiratoire pour éviter qu'ils passent en réanimation. C'est le sujet principal dans cette pandémie et il n'y a pas de traitement. Le médicamenteux, le seul traitement, c'est l'oxygénothérapie, et on pense que notre produit a le potentiel de rentrer en synergie avec cette oxygénothérapie et de faire la différence. Donc ça, on reviendra sur l'avancement de cette étude, j'imagine. Le deuxième point en 2020, ça a été effectivement le fait que les actionnaires de Biofity sont nous ont accompagnés, et je les remercie, entre autres, dans cet effort. Et la société a pu ainsi se recapitaliser. Plus de 30 millions d'euros ont été levés l'an dernier, ce qui nous a permis d'avancer l'ensemble du pipe et aussi terminer le recrutement des patients dans l'étude sur la sarcopénie, l'étude SARA. Enfin, le dernier point, et c'est très important aussi, pas uniquement à court terme pour les fonds levés, mais aussi à moyen terme, ça a été le fait que maintenant on est coté au Nasdaq. Ça a été un succès, cet IPO. On a réussi à lever 20 millions de dollars, qui était le maximum que l'on pouvait lever, étant donné les autorisations que nous avions. Et 10% à peu près maintenant des actionnaires de la société sont américains. Et nous sommes cotés là-bas. Tout le travail reste à faire, hein, pour évidemment être connu et beaucoup plus présent auprès de la communauté financière américaine, mais c'est un premier pas, et c'est ce qui va nous permettre évidemment de développer plus de facilité la société dans les années qui viennent.
Alors, vous avez été amené à réagir puisque sur l'étude COVA que vous avez mentionnée, eh bien, il y a eu un communiqué qui n'était pas de Biofitis et vous avez été obligé d'expliquer aux investisseurs que, voilà, vous savez pas ce qui s'est passé exactement sur cette communication, qui l'a fait, bien entendu, mais quelles précisions vous pouvez apporter aujourd'hui puisque c'est quand même assez rare que ce genre de choses et c'est plutôt, voilà, on ne sait pas quelles sont les intentions, en tout cas, de ceux qui l'ont publié.
On a été extrêmement surpris, effectivement, de l'évolution du cours ces derniers jours. Et on ne savait pas pourquoi. Ce n'est pas lié à des annonces ou à des informations qui émanent de la société. Il n'y a rien de particulier en ce moment qui serait susceptible de faire évoluer ce cours-là de cette manière-là. Et puis, quelques actionnaires nous ont signalé, là, cet article qui ressemblait à un communiqué, qui était complètement faux, c'est un faux, qui a été fabriqué par je ne sais pas qui, et qui a été relayé, et donc nous l'avons signalé évidemment aux autorités compétentes, l'AMF, la SEC, et voilà, nous déclinons toute responsabilité dans évidemment ce communiqué. Je pense que malheureusement, dans les biotech, et en particulier les biotech qui développent des traitements ou des vaccins dans le Covid, peuvent être la cible de beaucoup d'espoir ou de désespoir, beaucoup de spéculation. Et ce n'est pas l'esprit de la société. On travaille sur le long terme. Je pense que les actionnaires qui nous suivent le savent. Et entre autres, on est dans une activité qui a pour objectif de traiter des personnes malades. Et nous ne nous permettons pas évidemment, nous ne cautionnons absolument pas ce type de pratique. Je suis absolument désespéré que nous puissions être la cible de ce type de pratique.
Voilà, ça peut peut-être être de la malveillance, ou peut-être aussi c'est peut-être lié aux avancées finalement de Biofitis. Vous parliez de notoriété, bah peut-être que vous avancez et que vous commencez à gêner peut-être d'autres acteurs.
Ça peut être la rançon du succès, effectivement. Je pense que c'est vrai qu'on devient de plus en plus sous le regard de la communauté financière, des industriels, au fur et à mesure que nous avançons, évidemment, dans le développement clinique, en particulier de Sarconeos dans le Covid, puisque nous sommes proches maintenant de résultats intermédiaires dans cette étude, sur 155 patients, puisqu'on a annoncé il y a une quinzaine de jours à peu près que nous avions passé le cap des 100 patients, dans cette étude qui se déroule sur une trentaine de sites. Et comme je l'ai déjà signalé, nous continuons à ouvrir des sites. Nous recrutons entre 1 et 2 patients par jour en ce moment. Et donc, dans les prochaines semaines, nous atteindrons cette marque de 155 patients, à l'issue de laquelle, quelques semaines après, pourront être réalisées des analyses par le comité indépendant, le Data Monitoring Committee de l'étude, qui est composé de statisticiens, d'infectiologues, de pneumologues renommés internationaux. Et sur la base d'un protocole prédéfini, ils nous diront si l'étude doit s'arrêter parce qu'elle est futile, ce que je n'espère pas évidemment, et les actionnaires de Biofitis non plus, mais ils peuvent aussi donner un signal positif, voire extrêmement favorable, hein. Le cas extrêmement favorable, c'est que les résultats sont exceptionnels, et à ce moment-là, les agences réglementaires seront saisies, et on peut imaginer donc une accélération du développement sous forme d'une autorisation conditionnelle plus tôt, on va dire, sur la base de ces données de 155 patients. C'est quand même peu probable, hein. Ce qui est le plus probable, je pense, c'est que nous ayons un feu vert pour continuer l'étude jusqu'à la marque des 310 patients, que ce nombre puisse être réévalué à 460. Hein, le Data Monitoring Committee pourra nous dire cela, ce qui signifierait, et ce serait très positif pour la société, qu'il y a une différence intéressante entre le traitement et le placebo, et que potentiellement, il faut simplement poursuivre le recrutement des patients pour confirmer les tendances qui auraient été observées sur 155 patients.
On avait eu l'occasion de parler au cours de nos entretiens au cours des derniers mois entre les États-Unis et l'Europe, hein, et la France, comment Biofitis pouvait avancer. On avait parlé d'autorisations qui traînaient en France, qui pouvaient parfois aussi traîner en Europe. La priorité aujourd'hui, ce sont les États-Unis.
C'est les États-Unis qui ont un système réglementaire plus ouvert à l'innovation dans les médicaments, et peut-être d'ailleurs dans les autres innovations, c'est ce que je pense d'ailleurs dans les biotech de manière générale, ou dans la tech. Donc effectivement, on a une FDA qui est beaucoup plus rapide que le système d'agences européennes, qui est assez complexe, hein, puisqu'on est un ensemble de pays indépendants. L'Agence européenne du médicament est européenne, mais chaque agence nationale, évidemment, a le dernier mot dans les autorisations ou la capacité de mettre sur le marché le produit. Donc, chaque pays garde, on va dire, une maîtrise de son système de santé et des autorisations in fine. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, où la FDA, finalement, donne un feu vert ou pas. Donc, c'est plus simple pour une société comme nous, effectivement, d'accélérer. Aux États-Unis, on a 13 centres ouverts cliniques, un grand nombre de centres sur la côte est, ouest, donc dans le centre, d'expérience, on voit bien qu'aux États-Unis, les autorisations sont données plus rapidement.
Un mot du conflit que vous avez signalé avec Negma, quelles conséquences sur les prochains mois ?
Alors, c'est une histoire qui est un litige donc judiciaire. Je ne peux pas commenter précisément cela. l'information est publique, hein, et nous avons publié un certain nombre de communiqués. Nous avons résilié l'an dernier ce contrat, et suite à cette résiliation, un litige a été initié par Negma. Le tribunal de commerce en première instance a donné raison à Negma et suite à l'appel, nous a donné raison, ce qui fait que Negma a dû nous rendre 2 millions de titres et quelques centaines de milliers d'euros d'indemnité. En deuxième instance, hein, le tribunal de commerce a confirmé finalement sa décision et a condamné Geofitis à verser 7 millions de titres et quelques centaines de milliers aussi d'euros d'indemnité. Cet jugement est exécutoire, donc nous devons l'exécuter. Mais nous avons fait appel parce que nous pensons aussi que nous sommes toujours dans notre bon droit et que, in fine, nous avons toute chance de gagner ce litige qui a pour ce que l'on cherche, hein, tout simplement. C'est à annuler, à demander l'annulation de ce contrat qui, pour nous, n'a pas été respecté par Negma. Et donc, à court terme, l'impact pour la société est faible. Hein. Nous avons les moyens de payer cette indemnité et le nombre de titres pour lesquels nous devons livrer à Negma. C'est 7 millions de titres. 2 millions avaient déjà été, on va dire, émis, étaient inclus déjà dans la dilation, donc 5 millions de plus sur plus de centaines de millions de titres en circulation. C'est une dilution tout à fait raisonnable. Et l'impact, je pense, pour la société à court terme est limité. Et par ailleurs, la cour d'appel donc est saisie et nous pourrions avoir une décision favorable, en tout cas je l'espère, entre 12 et 18 mois. C'est le temps en général que la Cour d'appel met pour juger ces cas.
Le mot de la fin rapidement sur les prochains mois, ce qu'on doit attendre de Geofitis.
C'est une année et un trimestre en particulier très important pour la société puisque nous allons avoir les résultats de la phase 2 dans la sarcopénie. On a peu parlé de cette indication qui reste très importante pour la société. Je vais parvenir sur cette maladie neuromusculaire liée à l'âge qui touche entre 30 et 50 millions de patients dans le monde, pour lequel il n'y a pas de traitement. Le sarconéose bio-101 est le produit le plus avancé dans cette indication. Et les résultats vont tomber ce trimestre. Donc c'est dans les prochaines semaines, peut-être au mois de mai ou au mois de juin, on verra en fonction de la vitesse avec laquelle on arrive à bloquer cette base de données, après tout le contrôle qualité qui doit être fait pour pouvoir bloquer cette base, hein, et ensuite réaliser les analyses. Nouvelle très importante qui serait le point d'entrée vers la projection sur une phase 3 qui serait la première fois qu'une société pharmaceutique, biotechnologique développerait des études cliniques dans cette indication. Une phase 3 qui pourrait démarrer l'année prochaine. L'autre nouvelle sur ce trimestre, c'est, je reviens à ce que j'ai dit en début de l'interview, c'est effectivement ces données intermédiaires au milieu de la phase 3 qui donneront un signal sur le potentiel thérapeutique du produit. Et je pense que ça ouvre l'horizon vers... Ensuite, la préparation à l'industrialisation, à la commercialisation, tout en continuant cette étude hein, qui se poursuivra dans tous les cas jusqu'à son terme, qui sont les 310 patients. Donc, quand nous atteindrons les 155 patients, on continue les recrutements pour le plus vite possible atteindre soit 310, soit 460 patients si le nombre au final était réévalué. et pour pouvoir confirmer, avoir des données suffisamment solides pour non seulement avoir les autorisations conditionnelles avant la fin de cette année et commercialiser si possible au dernier trimestre de cette année, dans le cas de cette autorisation exceptionnelle dans le premier pays, et ensuite envisager donc une extension de ces développements et de cette commercialisation en 2022. Donc c'est potentiellement un changement de paradigme pour la société que, on va dire, cette nouvelle et l'avancement de son projet dans le Covid et d'un autre côté, les perspectives de la phase 3 dans la sarcopénie.
Merci beaucoup Stanislas Veillet d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui.
Merci.